Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Retour en Terre des Justes, une série en 6 épisodes, signée Julia Urbachtel. Vous écoutez le 6e et dernier épisode.
L'échange que j'ai eu avec Evelyne et Bernard m'a permis de mieux saisir le parcours de Bléranda et Dardane depuis leur arrivée à Saint-Agrève. Maintenant, pour comprendre la tradition d'accueil qui est offerte ici depuis plus de 80 ans, je me suis rendue, pour ce dernier épisode, à la rencontre de Thérèse. Elle est la présidente de l'association Plateau Asile Solidarité depuis quelques années. Cette association laïque accompagne les demandeurs d'asile et les aide à défendre leurs droits. Thérèse m'a conviée chez elle, une grande clairière avec au bout de l'allée une maison qui a des airs de chalet montagnard. J'agite la petite clochette qui fait office de sonnette.
Vous n'avez pas osé rentrer ?
Non, je ne voulais pas m'imposer. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci. On va monter ?
Oui, bien sûr. Merci de m'accueillir. Vous
en prie.
Alors, j'ai vu qu'il y avait le nom de votre papa, c'est ça ?
Oui.
Qui porte d'ailleurs le nom de la rue.
Voilà.
C'est vous. Merci beaucoup.
Il y avait un réadressage un peu général, donc c'est à ce moment-là qu'on a demandé à la mairie si elle voulait bien faire ça.
Parce que votre papa était une personnalité connue pour son travail de médecin ?
Oui, le peu de temps qu'il est resté là, parce qu'il a pas resté, il est resté 2 ans, hein, c'est tout.
Thérèse habite une rue qui porte le nom de son père. Elle me raconte que son père était médecin et résistant entre 39 et 45. Il était roumain. Sa mère était autrichienne et tous les deux étaient issus de familles juives. Nos deux familles ont probablement habité proches l'une de l'autre. Elles se sont même peut-être croisées. Pendant qu'il était prisonnier en Allemagne, le père de Thérèse décide de se convertir au protestantisme. Plus tard, ses parents viendront trouver refuge à Saint-Agrève.
Alors, l'arrivée à Saint-Agrève, ça fait très peu de temps que je sais comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, je me demandais toujours pourquoi Saint-Agrève, ça aurait pu être 40 000 autres lieux en France. J'ai eu, il y a quelques années, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, un jour, un coup de téléphone d'un monsieur qui avait retrouvé dans le grenier de sa grand-mère une lettre adressée à mes parents, ici. Et il avait cherché, il m'avait contacté et il m'avait expliqué qu'en fait, sa famille venait à Saint-Agrève avant la guerre pour les vacances. Et puis, comme ils habitaient en ville, au moment de la guerre, ils ont aussi venu pour se mettre à l'abri. C'était une famille protestante. Et il se trouve qu'une des personnes était dans le même camp de prisonniers que mon père. Et donc, a dit à mon père que c'était un lieu qui était sympa, qu'on pouvait être bien accueilli, etc. Donc, maman qui était en 42, elle avait quitté Paris pour être dans le Poitou, à Châtellerault. Il lui a donné cette adresse. Et donc, maman a dit, on va se retrouver là. Et ça a été une grande aventure. Ça a été assez compliqué pour venir. Elle est passée par les Pyrénées, par les Pays Basques. Je crois que c'est un périple qui a duré facilement un mois et qui a été un peu semé d'embûches et pas très évident, quoi.
Aujourd'hui, Thérèse est la présidente de Plateau Asile Solidarité. C'est l'une des associations de la région qui accompagne les familles qui arrivent ici. Elle est composée d'une 40aine de membres. Cette association a la particularité d'aider des gens qui décident de s'installer dans la région en proposant un soutien administratif, un accompagnement pour trouver un logement ou encore des cours de français. Je me demande si son histoire personnelle a pu avoir une influence sur ses choix actuels.
Est-ce que vous avez le sentiment de rendre la monnaie de la pièce de ce que vos parents ont eu comme accueil?
Oui, bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et puis si, c'est aussi un principe un peu politique de dire que bon, il y en a aucune raison de ne pas aider à accueillir les personnes qui demandent l'asile à la France. Hein, mais mes parents, en fait, ils ont choisi la France. C'est un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui, je pense. Ils ont vraiment choisi la France et décidé de devenir français. Et à l'époque, entre les deux guerres, c'était excessivement facile. Mon père, il est allé à la mairie à Paris quand il faisait ses études de médecine. Il est allé à la mairie à Paris avec deux témoins et il a eu la nationalité française. Bon, actuellement, c'est des parcours du combattant qui peuvent durer 10 ans. Hein. Donc, ça n'a plus rien à voir. Hein.
Thérèse m'explique qu'en 10 ans, les vagues de migration ont beaucoup évolué en fonction des périodes et de la géopolitique. Des Afghans, des Syriens, des Albanais, des Kosovars, des Serbes, plus récemment des Ukrainiens, mais aussi des Biélorusses, des Arméniens. Aussi beaucoup de personnes qui viennent de pays d'Afrique comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Éthiopie, la Somalie. Malgré la grande diversité de personnes qui arrivent sur le plateau, Thérèse m'explique que la région est plus adaptée pour recevoir des familles.
On a une structure avec crèches, écoles, collèges, donc des enfants qu'on peut scolariser dans des bonnes conditions, avec pas trop d'enfants dans les classes. Donc l'accueil peut se faire très bien, il y a quand même un hôpital, il y a une sage-femme, enfin, etc. Donc tout ça est très bien pour les familles, et les familles qui sont ici se trouvent très bien. Par contre, ce qui est, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on nous envoie aussi très souvent des jeunes adultes, c'est-à-dire des gens qui parfois sont partis mineurs de leur pays, mais le temps qui mettent 3 ans à venir, ils sont devenus majeurs, mais qui sont des jeunes hommes tout seuls et qui vraiment ont du mal à faire leur place ici parce que ils ont du mal à s'intégrer et ils aimeraient être en ville, ils aimeraient avoir un peu des gens, un peu de leur communauté, enfin ce qui peut se comprendre tout à fait. Alors qu'ici, quand il y a un Éthiopien qui arrive ou un Congolais ou un Ivoirien tout seul, c'est un peu compliqué. Soit ils décident de rester ici, et c'est cela qu'on aide, nous, à Plateau Asile Solidarité. Hein. C'est-à-dire qu'on les aide au niveau de l'hébergement, presque gratuit, pour la bonne raison que c'est des gens qui n'ont plus de ressources. Donc ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de ressources. Et nous, on les aide un peu financièrement quand même, puisqu'ils n'ont plus grand-chose pour vivre. Et puis on reconstitue le dossier pour tous les relais sociaux, administratifs, etc. Et là, on ne travaille pas tout seul, parce qu'en fait, on s'est mis en réseau un peu avec d'autres associations qui sont sur l'Ardèche. Voilà, donc on travaille en équipe par rapport à tout ça. On travaille à une petite échelle et donc à une échelle humaine. Le problème de tous ces camps énormes, comme il y a en Italie, comme moi je comprends très bien les habitants de Lampedusa, imaginez qu'à Saint-Agrève, il arrive 2000 réfugiés d'un coup. Bah, autant que la population, c'est ce qui se passe à Lampedusa, sur une surface de quelques kilomètres carrés. Bah, forcément, c'est pas possible. C'est impossible. On peut pas l'assumer. Hein, l'assumer dignement.
Durant l'échange que j'ai eu avec Jeanne, Evelyne et Bernard, j'ai compris que cette entraide n'est pas au goût de tout le monde. Thérèse m'explique les raisons du rejet de cette tradition d'accueil par une partie de la population locale.
Ici, on a deux vestiaires qui fonctionnent très bien, à l'entraide protestante et au secours catholique, où il y a des vêtements qui sont aussi jolis que ce que vous avez sur vous aujourd'hui, parce que les gens, vous savez bien, on a trop de choses dans les armoires, donc on donne, et des choses très très correctes, mais qu'ils vendent à 2 euros, 3 euros, 5 euros, ces gens-là, ils y vont et ils sont habillés comme tout le monde. Très bien. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient mal habillés. Mais il y a des gens qui disent, mais vous voyez bien qu'ils sont riches, regardez comment ils sont habillés. Et ça, c'est une réflexion qu'on entend. Vraiment. Mais on voudrait qu'ils soient mal habillés, ça serait mieux. Oh, il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens, hein, mais c'est aussi un manque un peu de réflexion, quoi. Il ne faut pas le grand tout rose non plus, quoi. Je veux dire, c'est très variable. Mais c'est beaucoup une méconnaissance des choses et une espèce de peur qui n'est pas justifiable du tout. Parce que moi, j'ai connu une dame qui était comme ça, très, très réticente et qui avait très peur, jusqu'au jour où un des Somaliens qui était resté là pendant plusieurs années, en attendant ses papiers, pendant presque 3 ans, qui, quand il est arrivé au mois de janvier, avec la neige, je peux vous dire qu'il était très, très malheureux. Il avait très peur de la neige. Et à la fin, il a fait du déneigement solidaire. Il est allé déneiger cette brave dame, qui savait plus comment le remercier. voilà. Pas parce qu'elle avait bien réalisé que, bah oui, il était très très très, très gentil. Tous les gens qui sont restés ici et qu'on a aidés, qui ont pu avoir leurs papiers, il y a eu 5 familles quand même qui ont pu être régularisées dans les 3 dernières années, on va dire, et ben ils sont tous au boulot. Et ils ont trouvé du travail sans problème. Et si les patrons les ont embauchés, c'est parce qu'ils trouvaient personne d'autre pour faire ce travail. Donc ils ont pris le travail de personne. Hein. Le problème... Bon, moi, je connais bien l'Afrique. Je veux dire, le problème de l'Afrique, il est vraiment géopolitique. Si les Africains qui sont là, sauf exception, ils sont jamais très heureux ici. Parce qu'on est tellement dans des pays différents au niveau géographique, climatique, etc., au niveau culturel. C'est pas une histoire d'échelle de valeur. Moi, la culture africaine, je la trouve très belle aussi. Mais c'est pas la nôtre, c'est tout. Et on leur demande un effort quand même énorme pour rentrer dans notre culture à nous. Et de quel droit ? Hein ? Est-ce que nous, quand on a colonisé l'Afrique, on est rentré dans leur culture ? Pas du tout. Hein ? On est resté entre blancs, et on continue à faire ça, quoi. Et à piquer leurs affaires, et à piquer leurs richesses, etc. Et je veux dire, et c'est ça qui est très compliqué. Si on avait vraiment aidé l'Afrique à se développer, je pense que les Africains, ils seraient très heureux de rester chez eux. Parce que là, c'est souvent une migration qui peut être effectivement politique, mais qui est souvent économique. Les Africains, ils ont des capacités extraordinaires. Enfin, ils viendraient s'ils ont envie, mais pas comme ils viennent aujourd'hui, en risquant leur vie et en se noyant dans la Méditerranée, etc. Ou en étant esclaves en Libye. Enfin bon, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est compliqué l'histoire de l'intégration. Hein. C'est très variable suivant les pays d'où on vient, suivant l'éducation qu'on a eue, suivant tout notre parcours, enfin, etc., etc. Et je veux dire, d'une famille à l'autre, elle se fera pas forcément de la même façon, quoi. Et elle va se faire petit à petit, mais elle peut demander plus ou moins de temps. Comment trouver l'équilibre aussi entre... Bah, c'est normal, ses origines, qu'on veuille garder un petit peu quelque chose de son passé. C'est pas simple. Ce problème d'intégration, il est très compliqué. D'ailleurs, justement, là, on va avoir une réunion avec notre collectif là, d'associations et communes. Là, et j'avais bien envie, justement, qu'il y ait un certain nombre, que Blérandao et Dardane, et puis d'autres familles qui sont ici, donc qui ont leurs papiers, qui travaillent, etc., et qui viennent un petit peu témoigner pour dire qu'est-ce qui est réussi et qu'est-ce qui a été difficile et qu'est-ce qui n'est pas réussi dans leur processus d'intégration.
Le poète Paul Éluard disait à propos des déportés « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. » Pour ne pas être oubliés, chaque histoire mérite d'être racontée. Patricia, Jacqueline, Blérenda, Dardane, Jeanne, Evelyne, Bernard et Thérèse, toutes et tous m'ont ouvert les portes de leur maison pour me raconter la leur. Au cours de ce voyage à Sainte-Agrève, j'ai rencontré des gens fabuleux, d'une générosité sans limite. Ce podcast est un hommage à l'histoire de Blérenda et Dardane, un hommage à l'histoire de mes arrière-grands-parents, mais aussi un hommage à toutes ces autres histoires d'accueil et d'entraide. Celles qu'on racontera plus tard et celles dont on ne parlera jamais. Celles de tant d'autres régions, de tant d'autres anonymes qui agissent en toute discrétion.
Moi, je pense qu'il y a plein de régions de France où il s'est passé des choses. Et puis qu'il y a beaucoup d'endroits où ça s'est fait en toute discrétion, on va dire.
Alors, je vous invite à prendre la parole à votre tour, à interroger vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos voisins.
Mais ça vaut la peine de penser au fond qu'on n'est que de passage sur Terre. Mais remplir sa vie avec ce partage des autres, pour moi, c'est la valeur fondamentale.
Comme Jeanne, je vous invite à faire de nos différences une force, à discuter avec l'autre pour qu'on puisse apprendre à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble. Enfin, je vous invite à regarder de temps en temps derrière vous pour mieux analyser notre histoire et mieux comprendre notre présent.
C'est un village qui nous touche, en fait. Parce que c'est peut-être grâce à ce village que moi, qui suis née après la guerre, je suis née. Parce que si mes parents n'avaient pas été sauvés dans ce village, je ne serais pas venue au monde. Et toi non plus.
mein Städtele Bell. Mein Heimala dort, Bicho, meine schöne Kinderjuren, Barbara. Els, mein Städtele Bell. Mein Heimala dort, Bicho, meine schöne Geläumes, Gehand.
Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Retour en Terre des Justes, une série signée Julia Urbachtel pour Podcastine. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier, Gabriel Taïeb et Alia Trabelsi, illustration Aurélie Carmouze. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.